présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Puis, il va chercher un taxi pour la raccompagner chez elle avec ses paquets. Il ne voit pas que sort d'un magasin de chaussures la Marthe. Elle est furieuse et se dit « Il m'a dit qu'il était fatigué pour sortir avec moi. Et il est avec elle. Il me le payera. Ils me le payeront tous les deux. » Elle est furieuse. Ils sont sortis. Ils entrent dans un taxi avec leur paquet. Il la raccompagne chez elle.
La grande cascade. On se réconcilie dans la grande cascade.
Après l'avoir raccompagné, elle l'embrasse sur la joue et lui dit « À bientôt !» Et lui s'en retourne à Paris. Il se dit que c'est une charmante jeune fille et que ça le change de ses mégères. Chez elle, elle habite une villa avec perron blanc et tout à Versailles, belle maison ancienne au fond d'un parc et d'arbres centenaires. Elle est rentrée chez elle furieuse. La maison est meublée Louis XV. Les murs sont clairs. La bonne ne l'a pas ouvert. Elle est furieuse. Dans le couloir, elle crie « Où êtes-vous ?»« Où ?» Elle court en vitesse. Une jeune femme maigre, cheveux chacun, petite habillée en bonne. « Voilà, madame. » Elle lui demande « Où étiez-vous ?» La bonne lui dit « Monsieur est de retour et je l'ai aidé à porter ses valises dans sa chambre. » Elle se dit « Il est de retour, celui-là. Je ne pensais plus à lui. Il tombe bien, comme si j'avais le temps à pas jouer à la bonne épouse. » Elle dit à la bonne, « Bien, vous pouvez aller. » Elle se dit, « Il faut que j'aille le voir, lui dire bonjour. » Elle monte, énervée à l'étage. Au deuxième étage, frappe à la chambre de son mari. Entrez. Elle entre. La pièce est grande. Il est là, debout, au milieu de la pièce, le sourire aux lèvres, grand mince, cheveux gris épais, porte un costume gris, lui dit « Bonjour chérie !» Elle s'approche de lui « Bonjour !» Il la prend dans ses bras, elle se laisse faire. Il lui dit « Tu as l'air bizarre !» Elle fait « Quoi ? À cause d'un peu de fatigue ?» Il lui prend la main et lui demande « Qu'as-tu donc fait ?» Elle lui dit « Rien, je suis sorti voir des amis à Paris. » Il lui dit « Tu m'as manqué, tu sais. » Il l'amène vers le lit. Elle lui dit « Non, pas maintenant. Et puis tu dois être épuisé, non ?» Il lui fait « Oui. » « Tu as faim ?»«
Oui. » »«
Je te préparerai un petit quelque chose. »
Elle sort de la chambre soulagée. Faire ça avec lui, alors qu'elle l'a fait avec François, ça la dégoûte.
Demi-heure plus tard, ils sont tous les deux dans la salle à manger, l'un en face de l'autre. Lui mange du poulet froid. On mange toujours un poulet froid dans les repas improvisés, dans les livres, films, pièces de théâtre. Ces scènes doivent sûrement servir à faire de la pub au poulet, pour prouver que l'on peut manger à toute heure de la journée du poulet, que c'est facile d'en avoir un dans son réfrigérateur. Tout en mangeant, il lui dit
« Ta belle-sœur est complètement folle. Elle veut divorcer. Entre en est malade. J'ai dû le réconforter. Il ne faut pas qu'elle demande du divorce, cette idiote. »
Elle lui dit, « Tu as raison, c'est une idiote cette fille. Elle n'est pas digne de ce cher André. Je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, mais c'est un brave garçon, très travailleur. Je me demande ce qu'elle veut. » Le mari lui dit,
« Les femmes sont toutes pareilles, elles cherchent ce qu'elles n'ont pas. »
Elle lui dit, « J'espère c'est que tu ne penses pas ça de moi. »
Il dit, « Non, toi, tu es comblé. »
Elle lui fait, « Oui, et grâce à toi. » Elle réfléchit et lui dit, « Tu sais, ça ne m'étonne pas que cette Béatrice ne veuille plus de son mari. Il paraît qu'on la voit souvent avec des jeunes gens, très très jeunes. Et puis tu vois comme elle s'habille. Ce n'est pas sérieux pour une femme de son âge, et mariée en plus. » Il lui dit,
« Tu as raison. Tu dois être une amoureuse. Le pauvre André n'a pas de chance. »
Elle lui fait, « Oui, le pauvre. » Il lui dit,
« Mais elle doit rester sa femme. Si elle le quitte, il en serait malade. »
Elle lui fait, « Oui. » Le pauvre, et se dit, le pauvre con. Elle lui demande, tu restes longtemps?
Il lui fait, ne te fais pas de soucis.
Oui, elle est furieuse.
Le lendemain, elle téléphone à François.
J'ai ton cadeau.
Il se dit, que s'il ne lui donne pas, elle va l'embêter.
Il lui dit, oui. Elle lui fait, alors, cet après-midi à 15h, en bas de ton hôtel?
Oui.
Il y va. Elle lui saute au cou, comme une folle. Elle veut montrer qu'il est à elle. Elle lui demande, tu es heureuse de me voir? Il lui fait, oui, très. Et lui dit, j'ai envie que tu me prennes dans tes bras. On peut aller dans ta chambre. Il lui dit, non. Et lui demande, pourquoi? Parce que c'est un hôtel convenable. Et il fait, eh bien, choisissons un hôtel qui le soit moins. Viens, il est furieux. Elle le mène en taxi. Dans un hôtel près de la gare Montparnasse. Une rue près de la gare. Chambre minable, délabrée, sale. Ça sent la pisse et la javel. La pièce est petite, petite fenêtre, vitre, non faite, qui donne sur les toits, tapisserie à fleurs qui a été beige, tachée de taches sombres, peut-être humidité, sointe, d'humilité ou même autre chose. Parquet non lavé, poussiéreux et qui bouge. Il y a deux places en fer et aux dents rouges sales. Table de nuit 1950 avec lampe de chevet qui a un chapeau en papier huilé, cher lait. Lavabo sale. Dedans, de l'eau qui dort avec des choses, des pattes sales de merde. C'est répugnant. François a envie de vomir. Il lui dit, je ne pourrai pas là-dedans. Il lui dit, tu n'as qu'à te dire, mon chéri, que nous sommes deux amoureux obligés de nous cacher, de nous voir dans des lieux sordides pour cacher notre amour. Et puis, tu n'auras qu'à regarder la jolie montre que je vais te mettre au poignet. Tiens, regarde. Et son sac, un coffret rouge en cuir. Il y a marqué dessus Cartier. L'ouvre et lui montre une magnifique montre d'or en diamant et or. Bracelet en crocodile noir, un vrai bijou. Il demande, alors, ça te plaît? Il lui dit, oui, merci. Il la lui met au poignet et lui dit, tu vois, ça change le décor. Allez, détends-toi. Et elle l'embrasse sur les lèvres. Il se dit que c'est dur d'être un bébé en ce moment. C'est vraiment un travail de forçat. 2 heures plus tard, dégoûté, la bouche amère, à cause de l'ordure, l'odeur, la pourriture et la noirceur de tout ça. Sortent de la chambre en se disant qu'il n'a jamais travaillé dans d'aussi mauvaises conditions. Une fois dehors, elle lui dit, alors, pour eux, il lui dit, oui. Elle lui dit,
Je dois hélas te quitter, mon mari de retour. Il veut être que je sois chez moi lorsqu'il rentre. Quel monstre! Nous reverrons, n'est-ce pas?
Il lui fait oui. Elle le quitte pour entrer dans un taxi. Lui est furieux. Il a été un gigolo de bas étage pour vieille folle. Le soir, lorsqu'il revoit Judith, ils sont au salon. Elle lui demande « Qu'est-ce que c'est que cette belle montre ?» Il lui dit « Oh, rien !» Elle dit « On dirait une montre que l'on offre à un gigolo. » Elle est d'un mauvais goût, fait voir. Il enlève et la lui montre. Elle la regarde et lui dit « C'est du quartier. Ils font des choses de mauvais goût pour des cadeaux à offrir. Mais ça coûte une fortune, cette saleté. » Du vrai diamant ? Il est tout rouge. Il lui dit, si tu la veux, elle lui fait, non, elle est à toi. Mais qui te l'a offrir ? Qui te l'a offerte ? Il dit, rougissant, j'en avais envie et un homme l'a posée sur le lavabo. Alors, je l'ai prise. C'est le lavabo des toilettes du hall de l'hôtel. Je l'ai prise parce qu'il l'avait oublié. Elle lui dit, ça t'arrive souvent de prendre des choses comme ça? Et il dit, non mais, une folie, tu comprends? L'éclairage me la rendait beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. Je l'ai désirée et je l'ai prise. Elle lui dit, ça peut être dangereux. Il peut la reconnaître. Et il dit, il est parti pour l'Australie. Il lui fait, tu en as de la chance. Elle ne croit pas du tout à ce qu'il lui a dit. Mais préfère ne pas lui faire de scène. Elle a déjà beaucoup de choses à faire, préparer. Et elle ne lui parle plus de cette montre. Les jours passent. Il voit souvent cette Marthe qui supporte de moins en moins son mari. Elle rêve à François, le veut à elle. Un après-midi, qu'il marche dans le parc Mosseau. Il fait doux et ensoleillé. Elle lui dit, si j'étais libre, il m'arriverait bien avec toi. Et il dit, tu serais folle de faire ça. Il n'y a rien à moi. Comment ferais-tu pour vivre? Elle réfléchit, il dit, j'aurais des rentes. Mon mari va me laisser une bonne somme s'il meurt. Il lui dit, il est vivant et bien vivant. Et lui fait, il peut lui arriver quelque chose. Il lui fait, et quoi? Et lui dit, je ne sais pas. La vie ne tient qu'à un fil. Elle ne pense qu'à ça. Chaque fois qu'elle voit son mari, elle s'imagine ce qui pourrait lui arriver. Il la trouve bizarre. Elle lui demande,
qu'est-ce que tu as ?
Elle lui dit, rien.
Il lui dit, tu sors trop.
Elle lui fait, j'en ai besoin.
Il lui dit, tu pourrais rester un peu avec moi.
Elle lui fait, et pour quoi faire ?
Il lui dit, pour être heureux.
Elle lui fait, j'ai pas besoin d'être ici pour l'être. Et puis, rester enfermé, ça me rend neurasthénique.
Ce qui l'énerve, c'est que de temps en temps, François ne veut pas la voir. Elle se dit qu'il voit sûrement sa belle-sœur. Elle est folle et furieuse de jalousie. Pendant le repas, elle dit à son mari,
« Béatrice a été vue avec un jeune, toujours le même. Quelle honte! Elle ne se cache même plus. »
Il lui dit, « Oui, c'est une honte. Pauvre André, il ne mérite pas ça. Elle est folle. Tu devrais lui parler. »
Elle lui dit, « J'ai déjà essayé, mais elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. »
Elle lui dit, « Mais ce sont nos affaires. Elle fait partie de la famille. »
François revoit Béatrice. Mais il continue aussi à aller dans des lieux publics pour séduire et avoir un peu de bonheur. Ça le change de cette Marthe. Les jours passent. Marthe est jalouse, malade. Elle se dit qu'elle ne peut rester comme ça. Il faut qu'elle agisse. Et quoi faire ? Son mari la dégoûte de plus en plus. Elle se peut plus qu'il la touche. Elle lui dit souvent,
j'ai mal à la tête. Laisse-moi. J'ai trop chaud. J'ai mal. Laisse-moi. C'est la fatigue.
Etc. etc. Lui est furieux.
Il demande, mais qu'est-ce que tu as ?
Elle lui dit, rien.
Il lui dit, tu dois bien avoir quelque chose pour être comme ça.
Elle lui fait, ce n'est rien.
Il lui dit, ça fait des semaines que ça dure. Tu iras voir un médecin.
Elle lui dit furieuse,
je ne suis pas une machine qu'il faut réviser parce qu'elle ne peut marcher comme il faut. Je refuse d'être ta machine à plaisir. Je suis un être humain et j'ai le droit de ne pas vous voir te satisfaire. Non ?
Bon, ça va. Je te prends pas pour une machine. Mais je croyais que ça te faisait plaisir.
Elle lui fait, plaisir, plaisir. T'en as le bon, toi.
Est-ce que tu crois que c'est drôle de se faire enfiler ce truc moche qui vous mouille ?
Il lui dit penaud,
mais je t'aime.
Elle lui fait,
et après, pour prouver ton amour en faisant ça, toi? Et si j'en faisais autant, qu'est-ce que tu dirais?
Il lui dit, c'est pas pareil.
Elle lui fait, et pourquoi? Parce que je suis une femme, je dois trouver normal comment l'on m'enfile ça?
Il dit, j'y suis pour rien, c'est comme ça.
Elle lui fait,
tu n'as qu'à voir, toi, si c'est bon. Fais-le, toi, faire.
Il lui dit, mais...
Elle lui dit,
tu verras bien.
Il se dit qu'elle a dû rencontrer des femmes, gens, défense de la femme, qui ont dû lui mettre dans la tête des trucs. Il paraît que certaines sont lesbiennes. Il en profite pour prendre des femmes des hommes. Un jour, elle va lui dire qu'elle va vivre sa vie. Qu'elle veut vivre sa vie avec une fille. Qu'elle veut vivre épanouie. Qu'en vivant avec un homme, elle ne peut pas vivre épanouie. Parce que l'homme domine toujours la femme. Etc. se demande où elle a dû rencontrer ces femmes militantes. Il paraît que des gauchistes sont infiltrés chez les gens de la classe, de la haute. Elles militent dans les salons de thé, restaurants, soirées et même sorties des écoles. Ces militantes viennent de Lyon, ville anard, dure, ville mondiale des anarchistes. Ils se réunissent tous là-bas. Ils viennent du monde entier, reçoivent des ordres de Lyon et partent militer dans le monde comme les apôtres. Bien entendu, comme ce sont plutôt des étudiantes ou des fils à papa, se sont donc infiltrés dans les meilleurs milieux et cherchent à détruire de l'intérieur le monde civilisé pour le retour à la nature, aux tribus, etc. Il pense à tout ça, le pauvre Jules. Sa femme a pris le virus. Que faire ? Le lendemain, en prenant son thé au petit déjeuner, il lui dit,
j'ai réfléchi. Tu devrais te détendre puisque tu ne veux pas voir le médecin. Peut-être pourrais-tu te détendre toi-même, faire ce que tu as envie de faire.
Elle dit, oui, tu as raison. J'ai besoin de me détendre. J'ai pensé, peut-être un petit voyage. Oui, un voyage me ferait du bien.
Tu as raison. Et où veux-tu aller?
Elle dit, peut-être voir ma tante qui habite Florence. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Je pourrais aller la voir. Je vais lui téléphoner et lui dire que j'irai la voir.
Il lui dit, tu as raison.
Elle lui fait, mais avant, je sais peut-être de parler à Béatrice.
Et tu veux partir quand?
Disons dans une semaine.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.